Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Radio de la paix.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Débat démocratie en progrès. Le thème qui nous réunit ce jour, l'économie de la Côte d'Ivoire, atouts et défis. Pour en débattre, je suis en compagnie de Monsieur Faustin Onozon, économiste, expert en intelligence économique, également expert évaluateur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de Monsieur Séraphin Prao, enseignant-chercheur, professeur d'économie à l'Université Alassane Ouattara de Boaké, de Dr Christophe Kwame, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, de Monsieur Kalilou Koulibaly, spécialiste des questions énergétiques. L'émission Débat démocratie en progrès est présentée par Ben Diakité, réalisation Antoine Kouassi.
Radio de la paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Alors, Monsieur Faustin Onozon, vous êtes, comme je le disais tantôt en introduction de cette émission, vous êtes spécialiste des questions d'intelligence économique, vous êtes économiste également. Est-ce que vous pouvez nous présenter le tableau économique de la Côte d'Ivoire? Si je devrais vous demander, quelle est aujourd'hui la situation économique de la Côte d'Ivoire, que me répondrez-vous?
Merci Monsieur Ben Diakité, je pense que la situation économique et financière, on oublie souvent financière, de la Côte d'Ivoire, elle est bonne. Et si on essaie de voir de près le contexte de l'économie mondiale, vous savez que l'économie mondiale, elle est stable, mais lente et puis varie selon les régions. Et aujourd'hui, la croissance mondiale se maintient à un taux de près de 3,2% en 2024. Et en 2025 et 2026, ce sera pratiquement le même taux. Alors, vous voyez bien que la Côte d'Ivoire, nous avons depuis pratiquement bientôt 15 ans, nous avons un taux de croissance macroéconomique de près de 7% en moyenne. Dans le contexte de l'économie mondiale, je pense que la Côte d'Ivoire continue son petit bonhomme de chemin. Alors, cette croissance-là, il paraît qu'elle va encore baisser. Et compte tenu des difficultés auxquelles le monde sera livré dans les prochaines années, avec certains points que vous connaissez, les points de crue et tout ça, ça va entraîner d'autres difficultés au niveau des économies du monde. Parce qu'il faut partir des économies du monde avant de revenir sur la Côte d'Ivoire. Pour ce qui est des économies du monde, il y a plusieurs obstacles. Il y a les faibles cours des matières premières, ça c'est dans le monde entier. Donc ne soyez pas surpris si les cours du café, du cacao baissaient par hasard. Il y a aussi l'instabilité des taux de change et des flux de capitaux. Et puis, il y a l'investissement qui est le fer de lance de la croissance macroéconomique qui, lui, va stagner. C'est dire qu'on s'entend à des lendemains qui ne sont pas très, très, très intéressants. Alors, je crois que vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'on attend au niveau du contexte de l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est bien ça, n'est-ce pas?
Oui, c'est tout à fait. C'est,
voilà,
c'est
donc je suis parti de l'économie mondiale pour revenir à l'économie de mon pays. Déjà, nous avons un PIB qui se situe aux environs de 75 milliards de dollars et nous avons un PIB par habitant qui se situe aussi aux environs de 2500 dollars par habitant. Et il paraît même que dans la sous-région, nous sommes devant le Nigeria et puis le Ghana. Donc à ce niveau, je pense que la Côte d'Ivoire peut déjà dire merci à son évolution. Et puis le taux de croissance, je l'avais déjà dit, mais se situe aux environs de 7% en moyenne depuis près de 15 ans. Et par secteur aussi, les PIB évoluent d'une manière tout à fait cohérente. Nous avons le secteur de l'agriculture qui occupe à peu près 20%, celui de l'industrie qui occupe 30% et celui des services qui occupe 50%. Vous voyez un peu l'impact des services dans la variation de la production nationale de la Côte d'Ivoire. Et donc, ces points sont bons, mais il y a quelques points quand même qui sont difficiles à concevoir. Nous avons une population qui est quand même sous le seuil de la pauvreté aussi. 5,1% depuis 2015. L'inflation prend le large près de 5,2% en 2022. Et puis l'IDH qui se situe à 0,550. Nous sommes 159e mondial depuis 2021. Alors, ce sont des faits qu'il fallait relever avant de poursuivre notre émission.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Faustin Onozon. Professeur Séraphin Prao, sur la question de l'économie ivoirienne. On a vu la présentation faite par Monsieur Faustin Onozon. On retient que l'économie, depuis quelques années, est en nette progression. Et cependant, il a mis le doigt sur quelques situations qu'il faut regarder de près, notamment la question de la pauvreté, la répartition des richesses et surtout la question de la diversification de l'économie. Vous, en tant qu'enseignant-chercheur, cette économie ivoirienne, Quel est votre regard là-dessus? Quand vous regardez, qu'est-ce qui transparaît?
Merci beaucoup, M. Bendiakité. Déjà, ce qui transparaît au niveau de notre économie, c'est que, comme M. Onozon l'a dit, l'économie va bien au niveau macroéconomique. Au niveau macroéconomique, parce qu'on a un PIB, il a sous-évalué, c'est autour de 78 milliards de dollars hein, pour 2024. Et puis, 6,2% de taux de croissance, comme il a dit, en moyenne, hein, si on tient compte de la période où le président Ouattara dirige, c'est autour de 7,5 ou bien 8% même si on veut arrondir. Donc au niveau macro, ça se passe bien. Au niveau de l'inflation, à part cette année où on a chuté avec à peu près 4% du taux d'inflation, qui est dû d'ailleurs à la crise entre la Russie et l'Ukraine, qui a un peu participé à la flambée des prix, sinon on avait quand même un taux d'inflation qui était maîtrisé en deçà de la norme communautaire de 3%. Bon, à part ça aussi, le point faible, enfin, la croissance a été portée fondamentalement par les infrastructures, par le secteur du BTP, vous le savez. Je veux dire, ça a vraiment porté la croissance, mais en même temps aussi, cette politique des grands travaux a aussi un revers. Le revers, c'est que, comme le taux d'épargne domestique est faible en Côte d'Ivoire, autour de 16%, alors que le taux d'investissement aujourd'hui se situe à 23%, donc du coup, vous voyez qu'il y a un gap entre la capacité de financement du pays, dont le taux d'épargne domestique et l'investissement. Et donc cet écart, pour ne pas dire ce gap, a été comblé par l'endettement. Aujourd'hui, fin 2024, nous sommes autour de 32 000 milliards de stocks d'endettement. Vous voyez que c'est quand même élevé autour de 57% du PIB de la Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez les projections pour 2025, ce sont les chiffres du gouvernement, du ministre de l'économie, qui prévoient que 4 121 milliards de francs CFA vont aller pour rembourser la dette. Or, nous avons la capacité de mobilisation au niveau du trésor, ce qu'on appelle les ressources internes du pays, c'est autour de 3 700 milliards de francs CFA. Donc, c'est pour dire quoi? Pour dire que ce que la Côte d'Ivoire génère comme ressources propres n'est même pas suffisant pour payer les intérêts de l'année prochaine. Donc, voilà un peu le problème que nous avons au niveau de notre croissance économique. Et puis, il ne faut pas oublier aussi l'exogénéité de notre économie qui fait que nous sommes soumis à des chocs extérieurs que nous ne maîtrisons pas.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Les chocs extérieurs, c'est ce que M. nous a dit. Par exemple, la Côte d'Ivoire, vous le savez, depuis au Faubourg, l'économie de notre pays repose essentiellement sur le binôme café-cacao, vous le savez. Le cacao, lui seul, pèse 15% du PIB de la Côte d'Ivoire. Et il fait vivre à peu près 24% de la population. Et 6,5 millions de personnes y travaillent. Et donc, vous voyez, 12% déjà au niveau des recettes fiscales, cacao lui seul. Donc, vous comprenez. Et le secteur primaire, il a dit, contribue, bon, il a sous-évalué, hein. Le secteur primaire contribue à 22% du PIB de la Côte d'Ivoire. Le secteur secondaire, dans l'industrie, 23%. Et le secteur tertiaire, 55%. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, puisque nous sommes une économie agricole, faut le dire. Et le problème fondamental qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pu, pendant les années de président Ouattara, faire un effort de diversification. C'est vrai, il a commencé. Je trouve que c'est un peu lent. Le dernier rapport de la Banque mondiale le dit d'ailleurs, que la transformation structurelle est trop lente en Côte d'Ivoire, eu égard au potentiel quand même de notre pays. Voyez-vous? Et le bas blesse au niveau de la croissance du président Ouattara, c'est le côté microéconomique. Voyez-nous, en économie, il y a l'aspect macro où Ouattara est quand même champion, faut le dire, hein. Parce qu'il faut être quand même honnête. Les données parlent en sa faveur en termes de taux de croissance. Maintenant, au niveau micro, c'est là qu'il y a un souci. La microéconomie, c'est quoi? C'est des questions d'inégalité. Aujourd'hui, par exemple, les 10% les plus riches de la Côte d'Ivoire détiennent 10 fois d'argent que les 40% les plus pauvres de notre pays. Vous voyez que c'est énorme. Et quand vous regardez les statistiques, les riches profitent beaucoup plus que les 40% les plus pauvres. Et donc, du coup, il y a un effort substantiel à faire de ce côté-ci. Il a parlé aussi du côté du taux de pauvreté. C'est vrai, on était à 49%. Le président Ouattara a fait vraiment un effort. Nous sommes autour de 38% du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Mais là, comme je le dis, il y a encore des efforts à faire au niveau microéconomique. Voilà ce que j'ai pu dire sur le taux de croissance de mon pays, la Côte d'Ivoire.
Monsieur Kalili Koulibaly, sur la même question, sur la présentation et la santé de l'économie ivoirienne, vous, en tant que, je l'ai dit, expert dans le domaine des énergies, quel est votre regard sur la situation de l'économie ivoirienne?
La situation est bonne pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'indices qui le disent, sauf les chiffres n'ont de sens que dans leur interprétation. On était une économie totalement agricole dans les années 60, mais c'est en train de basculer. Alors, ne pas le dire, c'est faire un biais dans l'analyse. Le cacao, aujourd'hui, le secteur primaire représente seulement que 20%. En moyenne. Il est dépassé par le secteur secondaire. Donc, il y a l'agro-industrie, le BTP, l'immobilier, etc. Donc, prennent le pas sur le secteur agricole. Donc, il ne représente que 20% du PIB, alors qu'aujourd'hui, le secteur secondaire représente plus de 23%. Moi, que j'ai en chiffre, c'est à peu près 25%. Et puis, tu as le secteur tertiaire qui représente la plus grosse part du PIB. C'est-à-dire supporté par le transport, par la téléphonie, donc les télécoms et les services de la téléphonie, etc. 51%. Donc l'essentiel de notre PIB ne provient plus de l'agriculture. au regard de ces chiffres-là. Pour moi, c'est une bonne chose parce qu'il y a des pays à économie faible en ressources qui font partie des puissances économiques mondiales. Donc, nous espérons que la Côte d'Ivoire va aller vers cette tendance-là. Donc, dans un premier temps, faire en sorte que la partie primaire soit davantage faible pour céder justement la place au secteur secondaire et au secteur tertiaire. Ça, c'est un des éléments qu'il faut relever. Deuxièmement, il faut dire aussi que malgré cette situation-là, la Côte d'Ivoire représente 40% du PIB de l'UEMOA. 40%, c'est pas rien. Donc nous sommes véritablement le poumon économique de la sous-région, de la zone UEMOA. Ensuite, la Côte d'Ivoire est considérée comme la puissance agroalimentaire de la sous-région. Nous avons les plus grosses industries agroalimentaires de la sous-région. Ça aussi, il faut le noter. C'est dû à la transformation structurelle de notre économie. Donc ce sont des efforts qui sont faits depuis une certaine année. Ça ne date pas de longtemps, mais il faut continuer dans ce sens. Pour que nous soyons une économie résiliente, donc pour ne pas subir les chocs économiques dus à la volatilité des prix, comme il l'a dit, c'est d'avoir une économie de transformation, une économie de services forts. Parce que ces économies-là ne sont pas assujetties aux grands chocs économiques. Donc je pense que le défi est là. Le défi, donc, c'est d'aller dans ce sens, faire en sorte que la part de la matière première, qui en réalité, quand on prend la courbe de valeur dans les économies, la partie la plus basse, la plus faible, c'est la matière première. Regardez, tous les pays pauvres sont les pays qui sont riches en matière première. Les pays qui sont pauvres en ressources, qui savent, qui ont la technologie, qui font des efforts dans les progrès technologiques, des recherches, des innovations, etc., représentent les économies les plus fortes. Donc je crois que c'est ce que nous devons regarder pour faire l'effort dans la transformation de notre économie, d'aller vers justement ces modèles-là.
Docteur Christophe Kouabé, sur la même réflexion, on a vu hein, en termes de pourcentage, Kalilou parlait également de 20% pour le secteur primaire, ensuite le secteur secondaire et puis les services après. Mais quand on regarde, parce que la Côte d'Ivoire aussi appartient à une région, toute la sous-région ouest-africaine, elle est agricole. Est-ce que la Côte d'Ivoire a la technicité, a les hommes, a les instruments pour faire ce pas à l'échelle dont on parle? Parce que la transformation, parce que au-delà de tout, c'est le gros défi. Mais tous les pays de la sous-région sont des pays d'abord à vocation agricole et puis après des mines extractives. Comment on doit comprendre, comment ça peut se passer?
Premièrement, l'écosystème que mes prédécesseurs ont décrit, on ne va pas revenir là-dessus, mais ce qui est intéressant à retenir sur l'écosystème, c'est-à-dire que la pyramide est en train de changer. Au départ, c'était l'agriculture à presque 100%. Aujourd'hui, l'agriculture est à la partie la plus faible et les services sont en train de monter comme tous les pays qui sont intermédiaires comme la Côte d'Ivoire. Donc ça, il faut vraiment le noter. Le deuxième point, l'éducation en Côte d'Ivoire aussi, pour nous qui circulons en termes de formation, d'information des masses populaires, l'éducation aussi à un très bon niveau en Côte d'Ivoire, la santé aussi, l'innovation et l'industrie aussi. Pour nous, je pense que le diagnostic a été fait, il n'est pas de nous. Le privé, la CGCI en son temps, avait fait Côte d'Ivoire 2050, je crois, c'est perspective, Côte d'Ivoire 2040, je crois. Et puis les PND, nous, le donne le plan national de développement, ont déjà fait le diagnostic. Aujourd'hui, il s'agit d'un problème de gouvernance et d'orientation. Donc, sur ce plan-là aussi, le gouvernement vient de produire un programme national de gouvernance révisité chaque année pour soutenir tous ces événements-là. Donc, ce que je peux dire sur votre question, c'est que, un, sur la structuration de l'écosystème actuellement, nous sommes très bien partis parce que nous sommes en train d'aller dans une évolution que les pays développés aujourd'hui ont connue. Services seuls pèsent 50%. Deuxième élément structurel, c'est l'éducation, le niveau d'éducation, le niveau d'innovation et le niveau du personnel même, c'est-à-dire que la formation des personnes en Côte d'Ivoire, on a ce niveau-là. Le dernier point que je voulais ajouter, c'est ce que M. Kalilou a dit, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire pèse aussi financièrement 40%. Parce que vous pouvez avoir toutes les idées de génie, la dette actuellement nous limite dans tout ce que la gouvernance peut faire en termes de perspective et de développement, en termes d'innovation. Donc, ces deux mis ensemble, nous pensons que les investisseurs privés étrangers qui font encore confiance à la Côte d'Ivoire, au vu de toutes les émissions et de tous les prêts que la Côte d'Ivoire obtient, permettent de dire que les perspectives sont bonnes.
Monsieur, vous nous dites qu'il faut passer à la transformation ou il faut passer au développement des secteurs administratifs, des secteurs des services en Côte d'Ivoire pour que l'économie aussi puisse ressentir cela. Mais dans les faits, on se rend compte que la Côte d'Ivoire découvre de plus en plus des nouvelles sources d'énergie. hein, les baleines et tout ça, donc qui peuvent être considérées comme des sources primaires. Donc ça veut dire l'exploitation de ces énergies qui doivent peut-être donner un peu plus de recettes à la Côte d'Ivoire. Donc ça c'est de un. De deux aussi, on voit que l'or est découvert aussi dans certaines zones, donc ce qui crée encore des problèmes d'exploitation minière. Donc on retourne encore au secteur primaire. C'est vrai qu'il y a cette volonté, mais la réalité des terrains montre que les opportunités, les grosses opportunités aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, mais se situent dans le secteur primaire. Alors comment on fait ça? On dit il faut aller vers les services, vers le troisième secteur, mais on se rend compte que les grosses opportunités que nous avons aujourd'hui se retrouvent dans le secteur primaire, et les pétroles, les champs de pétrole et les minéraux. Alors, qu'est-ce qu'on fait, professeur Traoré-Séraphin?
C'est pas trop compliqué. Vous savez, même les pays développés ont connu ça. L'Espagne, la France, c'était des pays aussi qui étaient agricoles et agraires comme nous. Il y a eu après la révolution verte, etc., pour changer de cap. D'ailleurs, Rostow, le brillantissime économiste libéral, celui qui nous a laissé les 5 étapes de la croissance, du développement. Et on passe toujours par une étape aussi traditionnelle que la nôtre. Donc, c'est pas là le souci. Le souci fondamental, à mon humble avis, bien au contraire, je suis très très content que nous ayons découvert baleine, calao, aujourd'hui, Atanda, dans ma région, nous avons découvert, comme le président Ouattara l'a dit, un gisement d'or de classe mondiale. Et le problème qui se suit fondamentalement au niveau de la transformation du sujet, c'est quoi fondamentalement? L'ancien premier ministre a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Patrick Hachi, il a dit au 21e siècle, la matière première, c'est d'abord la matière grise. Et donc, c'est avec la matière grise que nous allons transformer effectivement de façon structurelle notre économie. Mais on transforme comment? Puisque le pétrole que nous avons découvert, l'or que nous avons découvert, les diamants et autres, je vous dis, monsieur Ben, ce sont des ressources non renouvelables. Et donc, nous, en économie, il y a une façon de gérer de façon optimale ces ressources non renouvelables. L'argent que nous allons avoir dans ces secteurs-là, nous devons utiliser cet argent pour réinvestir dans le capital humain et réinvestir dans la recherche fondamentale, réinvestir dans l'innovation pour pouvoir dynamiser le secteur secondaire et le secteur primaire. Parce que la transformation structurelle a un coût. Mais où trouver l'argent? L'épargne est faible parce que, effectivement, nous avons un niveau de vie faible. Dans la théorie keynésienne, l'épargne est un résidu après la consommation. Donc, si le revenu lui-même il est faible, l'épargne est faible. Mais où trouver l'argent? Donc, vous voyez que je pense que nous allons avoir une marge budgétaire au niveau de l'argent que nous allons avoir de notre baleine, calao et l'or. Donc, ce n'est pas un souci. Au contraire, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire d'emmagasiner des ressources financières. Et ces ressources financières, il faut les allouer de façon efficace et efficiente dans le secteur de l'innovation, de la recherche fondamentale, améliorer notre capital humain, parce que fondamentalement, c'est avec le capital humain que nous allons avoir des produits à haute valeur ajoutée et non des productions à faible valeur ajoutée comme actuellement.
Monsieur Faustin Onozon, oui. Sur la même question,
oui.
Ces nouvelles sources d'opportunités économiques à la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ces nouvelles sources économiques peuvent être, on va dire, de l'énergie, peuvent être un carburant pour booster l'économie ivoirienne?
Et je pense que c'est déjà une opportunité. C'est même une chance pour notre pays de disposer de toutes ces ressources-là. Mais il y a un problème. Vous savez, dans le temps, la BAD, mais ça existe toujours d'ailleurs, a mis sur pied des formations à renforcement des capacités pour développer la matière grise de ceux qui vont discuter avec les structures qui nous apportent des investissements directs étrangers. On découvre du pétrole en Côte d'Ivoire et on en a découvert depuis fort longtemps et actuellement les capacités sont devenues plus importantes. On est même entré dans les zones aurifères et autres, là où on découvre l'or. Mais le problème fondamental, on discute comment avec ces structures? Qu'est-ce qu'on gagne? Prenez peut-être un pays comme l'Arabie Saoudite. Ils ont du pétrole. C'est leur principale matière, leur principale ressource en termes d'exportation. Mais c'est des pays riches. Mais alors, comment est-ce qu'eux, ils ont discuté? Peut-être qu'il faudrait qu'on parte là-bas pour voir exactement comment est-ce que ça se passe. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse avoir tout ça et puis nos capacités en termes de recettes d'exportation ne soient pas exceptionnelles. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il faut certainement essayer de revoir. Et l'objectif ici, à mon sens, c'est de disposer nous-mêmes de ce que nous avons dans notre sous-sol, mais d'une manière cohérente. C'est pas par la guerre. Mais ceux qui viennent vers nous, il faudrait qu'on discute correctement. Vous savez que dans nos législations, moi j'ai été directeur des finances extérieures du crédit au Trésor public. Dans nos législations, ceux qui, par exemple, exploitent l'or et qui l'exportent, les textes sont là, ce qui nous revient, mais c'est inimaginable. Vous avez compris? Mais c'est des choses qu'il faut revoir, à mon sens, à mon avis. Si réellement on veut évoluer. Sur la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui reste à faire dans nos législations, qui devraient nous permettre d'aller de l'avant. Tout à l'heure, pour ce Prao, était en train de dire, était en train de parler de nos recettes. Mais c'est quel genre de recettes? Mais qu'est-ce qu'on gagne dans ces recettes? Voilà. De deux choses l'une, soit on participe à l'exploitation minière et énergétique et on le fait peut-être 50-50, c'est une forme d'intelligence que je donne. Je suis là aussi en intelligence économique et on essaie de voir qu'est-ce que ça peut nous donner. Ou même on le fait même dans une proportion de 30-70% ou de 40-60%. Mais ça, ce sont des faits qu'on peut mettre sur pied et qui pourront nous rapporter beaucoup. Alors si on doit demeurer dans la législation actuelle, mais je pense qu'on n'avancera pas.
Kalilou, sur ces questions énergétiques, puisque vous-même vous êtes spécialiste des questions énergétiques, la part souvent, parce que ce qui est mis en relief ici, c'est ce que gagnent réellement les États qui découvrent ces puits, ces minerais, et très souvent les entreprises qui exploitent, pour ne pas le dire, ont vraiment la part du lion et les États gagnent peu. Et ça, comment faire pour renverser la tendance ? Pour que ces ressources-là puissent vraiment constituer des plus-values dans les recettes publiques.
Oui, il faut faire la part des choses. Les matières premières sont découvertes par des recherches, par des chercheurs qui sont des étrangers, qui mettent de l'argent pour faire la recherche. Si je prends le seul puits Yenai, le Calao, la nouvelle de la dernière découverte du pétrole, du gisement pétrolier, avec Yenai, c'est la ENI, là, ils ont mis la moitié de notre PIB pour faire la recherche. 6 000 milliards. Mais ça aurait pu être un fonds perdu. Mais comment après ce mur minière ? C'est ça la question. Si on ne résout pas cette question-là, on ne peut pas comprendre pourquoi ils ont la part belle. Ils ont la part belle parce que c'est eux qui mettent l'argent. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui met l'argent à leur disposition. Donc cette partie de recherche et développement, c'est parce qu'ils ont la connaissance de le faire. Si nous avions la connaissance, on aurait pu faire ça sans eux. Parce que ce sont des entreprises privées qui ont l'expertise, qui viennent mener ces recherches en haute mer pour trouver du pétrole. Et après, c'est eux qui ont la loi. Les rapports sont clairs parce que aussi, s'ils ne découvrent rien, c'est de l'argent perdu pour eux. Donc c'est comme tout investisseur, l'objectif et de rentabiliser. Maintenant, jusqu'à où ils sortent du projet ? Ça, c'est important. Est-ce qu'ils vont exploiter le projet jusqu'à la fin ? Est-ce qu'à un moment donné, quand ils sont remboursés, ils sortent, ils nous cèdent les jugements ? Mais à quel moment ils cèdent ? Qu'est-ce qu'il en reste pour que nous, on puisse profiter à nouveau en prenant toute la part ? Bon, ça, c'est à voir. Je ne connais pas tout le contexte. Mais pour moi, voici un premier élément essentiel dans l'analyse qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, dans le domaine énergétique, on n'a pas besoin d'avoir des experts venant d'ailleurs, nous, pour faire des barrages. On sait les faire. Parce qu'il y a eu un transfert de compétences depuis les années 1980, quand il y a eu la crise énergétique et qu'il a fallu aller vite avec Cyprès, l'Azito et autres, les turbines à gaz, les cycles combinés et tout ça. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait faire, y compris les barrages hydrauliques, c'est des choses qu'on faisait traditionnellement depuis Fogoigny. On a vu le barrage de Kossou, etc. Donc on a cette expertise, on n'a plus besoin d'eux. C'est ce que nous recherchons. Mais sachez que dans tout ce qui est IDE, ce qui est important, c'est l'investissement direct étranger, quand il vient, il faut que ça soit vraiment dans l'industrie manufacturière. Il faut que ça soit dans l'industrie agroalimentaire. Parce que la richesse est créée dans le pays. C'est le pays dans lequel la richesse est créée, c'est ce pays-là qui en profite. La main-d'œuvre locale, l'industrie est locale, les salaires sont locaux, etc. Eux, ils ne partent qu'avec le bénéfice. Ils ne partent qu'avec le bénéfice et le rendement dans l'investissement, c'est 10%. Vous voyez, ça peut paraître beaucoup sur un gros volume d'argent, mais en réalité, la richesse est produite dans le pays où l'activité est menée. Donc, c'est un avantage pour nous. Ce qu'il faut éviter, par contre, c'est les IDE dans le commerce direct, où on achète puis on s'en va avec. Ça ne produit aucune recherche chez nous. Ils achètent en matière première, s'en va avec. Donc ça ne nous profite pas. Mais par contre, tout ce qui est industrie, industrialisation, semi-transformation, ça c'est un avantage et de plus en plus c'est ce qu'il faut faire. Mieux, vous savez, là je vais revenir dans le capital. Vous savez, dans les facteurs de production, il y en a quatre grands facteurs de production en économie. Il y a les ressources, le travail, donc la main-d'œuvre, etc., les investissements et puis l'entrepreneuriat. Le capital humain dont nous disposons, on a un capital humain qui est assez jeune et on commence à avoir assez suffisamment d'universités, mais il faut que les chercheurs davantage poussent la recherche de sorte que nos universités soient cotées et qu'elles attirent davantage de monde chez nous, comme le font les États-Unis, où presque tout le monde va se former là-bas et puis ils retiennent les meilleurs cerveaux, ils deviennent les chercheurs chez eux, ils sont ceux qui font les progrès technologiques, l'innovation, ils sont à la Silicon Valley, etc. Tous les étudiants qui sortent des grandes écoles sortent avec un projet qui sont incubés dans les grandes entreprises et après ils sortent avec l'expertise. Donc nous, dans nos rapport avec nos partenaires économiques, il faut qu'il y ait une part de transfert de compétences, il faut qu'il y ait de l'incubation quand ils viennent investir, pour qu'on puisse s'approprier demain. C'était le modèle chinois, je vais prendre un exemple. En Chine, par exemple, ils avaient l'épargne. Pour parler de l'épargne, ils avaient l'épargne, parce qu'ils sont nombreux. La moitié de la population chinoise, à l'époque, dans les années 2010, ils étaient autour d'un milliard de population. Si on estime que la population active représente 500 millions, à raison d'une épargne de 1000 francs, ça fait 500 milliards de francs CFA mensuels qui peuvent épargner. Nous, on n'en voit pas ces noms-là.
Donc si on veut compter sur notre propre épargne pour faire du développement, on ne va jamais y arriver. D'où la raison de l'endettement. Maintenant, il faut que cet endettement soit de l'endettement planifié et que ça aille vraiment dans l'investissement. Et l'investissement rentable, tant que la dette est investie, on n'a pas peur parce qu'elle s'auto-rembourse. Et c'est ce qu'on appelle une dette intelligente qui permet de s'auto-rembourser sans qu'on fasse des efforts. C'est pour ça que d'ailleurs, la Côte d'Ivoire est bien placée dans les rapports de Moody's et de S&P, comme quoi on rembourse correctement nos dettes. Maintenant, quand on prend l'endettement global qui est de 3 000 milliards, c'est pareil énorme, mais il faut voir sur les échelons. Toute la dette n'est pas contractée en même temps. Parce que c'est, là, c'est un agrégat qu'il donne. Mais il faut, parce que parfois la dette va à 30 ans, la dette va à 20 ans, la dette va à 10 ans. Donc il y a certaines qui sont déjà à maturité, il y en a qui sont en début. Il faut voir la durée de la dette, ramener ça à notre PIB, vous allez voir qu'on est assez confortable. Bien que notre balance courante soit déficitaire, peut-être du fait qu'on importe un peu plus qu'on exporte.
D'accord, on va revenir sur la problématique de la dette. Docteur Christophe Kouamé, dans mon interrogation tout à l'heure, je sortais deux gros problèmes. C'est le problème de financement de ces nouvelles opportunités économiques à la Côte d'Ivoire, notamment les minerais et les énergies. Et puis deuxièmement, la question de la formation des hommes. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a suffisamment les hommes pour transformer son économie?
Vous savez que la Côte d'Ivoire fonctionne avec une économie réelle et puis une économie informelle. Donc pour nous qui avons travaillé soumis en 2022, au gouvernement ivoirien, une voie relativement à la dette. Nous avons souhaité que l'État de Côte d'Ivoire reprenne là où il s'est arrêté les réformes juridiques et institutionnelles pour que l'informel en Côte d'Ivoire baisse et que le formel soit en hausse. Parce qu'en réalité, si on regarde les chiffres, je crois savoir qu'on est autour de 60-70% d'informels. Donc le pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre en se finançant par 30% du formel. Or, nous avons une grosse marge de 70% de réformes juridiques institutionnelles pour que le Choukouyaman, qui fait 800 000 francs CFA par jour environ, parce que quand on faisait ses études et ses travaux, nous sommes allés nous asseoir pour faire un benchmarking direct. Juste à côté, il y avait une pharmacie qui faisait 300 000, parce qu'en ce temps-là, la route ne passait pas. Et la pharmacie était presque en faillite, faisait 300 000, payait 8 millions d'impôts résiduels par an. Et l'autre monsieur faisait 800 000 par jour et ne payait pas d'impôts du tout. Aujourd'hui, le monsieur est rentré au Niger avec ses trois immeubles. Il a commencé en 2021. Je le connais personnellement. C'est pour cela que je vous donne cet exemple pour amener. Mais ça, si on le repense dans le système financier que mes confrères tout à l'heure ont cité, c'est que le système francophone a vraiment du mal à fiscaliser, je dirais, un certain nombre de types d'emplois, de secteurs qui ne sont pas a priori formels. Donc, je pense que le premier problème de la dette aujourd'hui, en tout cas, une des pistes, serait une réforme structurelle de l'informel. Pour revenir à la question principale des opportunités qu'on devrait transformer si on avait les capacités, je crois que l'État de Côte d'Ivoire a vu ces opportunités, a fait le basculement du budget de moyens au budget programme. Et à l'intérieur de cela, c'est passé inaperçu, mais en 2013, la Côte d'Ivoire et le FMI ont lancé une réforme fiscale en allant vers ces entreprises-là parce qu'elles avaient beaucoup de subventions fiscales. Donc il y a un rapport du FMI daté de 2023 qui met le pied sur ces entreprises-là qui produisent beaucoup. L'idée générale, c'est que le FMI conseille à la Côte d'Ivoire de faire comme Dubaï. Les 6 000 milliards en question, par exemple, Dubaï a une technicité là-dedans. Ils ont négocié, si c'est à fonds perdu, une partie devient une dette. Si c'est à fonds gagnant, on ne nous donne pas 10% comme ce qu'on semble entendre pour la Côte d'Ivoire. Donc, une partie des organisations de la société civile qui travaillent sur l'ITIE, qui est l'initiative pour la transparence des industries extractives, a amené l'État de Côte d'Ivoire, si vous avez suivi dernièrement les réformes, à la réforme du code minier qui est en cours. Donc, pour vous donner une information positive, pour dire que l'État de Côte d'Ivoire a vu lui-même les opportunités et le gain que les lois actuelles permettaient. On ne peut pas aussi, en tant qu'État, être un État bandit où vous prenez un pouvoir, des contrats sont signés, des lois sont existantes et sans réforme, pouvoir gagner. Donc, je vous rassure que à l'état actuel de la discussion que nous sommes en train d'avoir, l'État de Côte d'Ivoire a fait le même constat de l'opportunité qui ne nous ramenait pas assez de devises et de ressources pour pouvoir développer notre économie.
Merci beaucoup. On va aller directement sur l'un des problèmes qui est très souvent soulevé par les populations et les experts, c'est la question du financement de l'économie ivoirienne, notamment la question de la dette. La Côte d'Ivoire prend beaucoup de ressources à l'extérieur pour pouvoir financer son économie. Alors sur la question de la soutenabilité de la dette, du financement par l'extérieur, l'aide, appel aux capitaux publics extérieurs, cette politique-là, pourquoi la Côte d'Ivoire recourt à ça et comment faire pour qu'elle soit, on va utiliser le terme, soutenable. Je vous donne la parole, Khalilou. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'autant de l'aide extérieure pour financer et soutenir son économie?
La Côte d'Ivoire en avait besoin, en sortie de crise. Peut-être qu'elle n'en aura plus besoin autant dans 5 ans, dans 10 ans, si on arrive à progressivement transformer notre économie. Il a dit, le professeur a dit une chose qui est importante, c'est l'épargne. Pour ne pas aller emprunter, il faut avoir de l'argent soi-même. C'est vrai, ça reste limité parce que, au regard de tout ce qui s'est fait dans la géopolitique, tout le monde emprunte de l'argent. Rarement, ou peut-être qu'ils empruntent localement, mais ils empruntent de l'argent. Alors, une piste est qu'on a 70% de notre économie qui nous échappe du fait de l'informel. Mais en réalité, ce n'est pas de l'informel. On appelle l'informel la part du marché qui échappe au secteur formel. Parce qu'il s'installe dans la chaîne des valeurs, il s'installe sur un pan de marché qui est mal exploité ou inexploité par le secteur formel. Parce que le secteur formel n'est pas structuré pour fonctionner comme il fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui ont fait de la recherche là-dessus, comme Joseph Tiss et Pisano et autres, en parlant donc des capacités dynamiques, qu'ils appellent ça les capacités dynamiques, l'argent qui est engagé dans ce secteur, on appelle ça le revenu d'opportunité informelle. Parce que la pauvreté est obligée de trouver une solution pour sa propre survie. C'est cela qu'on qualifie de pauvre. Mais en réalité, ce ne sont pas des pauvres. Pourquoi? Il a donné l'exemple, un Shukuyaman qui n'est pas pris en compte dans notre économie, donc qui fait partie quand même de la population, est considéré comme un homme pauvre parce qu'il n'a pas de travail légal. Mais en réalité, ce n'est pas un pauvre parce que le système économique ne le prend pas en compte. Et cela représente 70%. Alors, il s'agit de mettre en place une politique publique qui s'adapte à leur mode de fonctionnement. Parce que chercher à les rendre formels, c'est de les faire disparaître. Parce que leurs caractéristiques ne correspondent pas aux critères du secteur formel. C'est toute une réflexion qu'il faut mener autour. Un, c'est la réflexion d'organisation stratégique. La question de l'organisation donc des capacités dynamiques. La question de l'organisation d'une chaîne de valeur de l'informel et la complémentarité de leur fonctionnement. Au regard de ce qui se passe dans les secteurs formels, les grosses entreprises cherchent aujourd'hui à fonctionner comme le secteur informel. Baisse des coûts, on allège le fonctionnement pour avoir des coûts de production qui sont bas, qui sont en réalité le mode de fonctionnement du secteur informel. Et c'est ce que Navi Radio disait, c'est un Indien qui a créé ce concept, faire plus avec moins. Ça a tout son sens. Et aujourd'hui, ça a permis à l'Inde de se développer. Oh, quand vous regardez le secteur informel, ceux qui y sont, ils n'empruntent pas de l'argent. Ou bien c'est dans un réseau local, ils se font de la tontine, ils se prêtent de l'argent entre eux, mais qui échappent au circuit bancaire. Parce qu'eux ne peuvent pas l'emprunter de l'argent dans les banques. Donc, dans ce concept-là, il y a 5 éléments, à mon avis, qu'il faut prendre en compte. Eux étant au cœur du système de l'informel, que j'appelle les capacités dynamiques, c'est-à-dire ceux qui sont capables de s'adapter à tout choc pour se réinventer et puis exister à nouveau. C'est ça le secteur informel. Quand vous regardez la crise économique, ils ne sont pas morts. Ils se sont chaque fois adaptés aux nouvelles opportunités qui se sont déployées. Donc, ils ont les capacités dynamiques. On a la résilience organisationnelle. On a l'innovation frugale, donc, que j'appelle donc la frugalité. Et puis, le réseau communautaire. Et puis, le contexte géographique du secteur informel. Parce que ce sont des économies locales. C'est tout ça mis ensemble, en étudiant leurs relations, qu'on peut arriver progressivement aller chercher davantage donc de confiance en eux pour nos systèmes économiques, capturer du revenu et puis agrandir l'assiette fiscale de sorte à réduire la pauvreté et puis créer une classe moyenne qui va permettre donc d'avoir beaucoup plus d'épargne pour l'économie nationale.
Monsieur Fausto, Ouzon, sur cette question, on a vu que Khalilou Koulibaly a dit qu'il fallait adapter, réadapter donc le modèle du secteur considéré comme informel à un modèle de taxation ou de fiscalisation pour une participation plus grande de ces acteurs dans le financement de l'économie. Vous, sur la réponse à la question de l'emprunt extérieur, qu'est-ce que vous proposerez par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des tentatives? Faire le maximum avec le peu?
Quand on parle d'endettement extérieur ou bien d'endettement tout court, c'est qu'on parle des recettes de l'État aussi. C'est quand les recettes ne suffisent pas qu'on s'endette. pour la question de l'endettement. Bon, il ne faudrait pas qu'on ait la mémoire très courte. Hein. En 2011 déjà, quand le président Ouattara accédait au pouvoir, il n'y avait pratiquement rien dans ce pays. Hein. Tout était à refaire. Et en pareille occasion, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? On avait quoi? C'est comme un père de famille. Vous êtes là et vous n'avez même plus de maison. Et puis quelqu'un vient vers vous pour vous dire, bon, prenez ça et puis après vous allez me rembourser. Puis vous allez lui dire non. Voilà, c'est une opportunité. Et puis comme d'une manière tout à fait extraordinaire, et en 2012, on a eu un taux de croissance qui a frisé pratiquement un taux de croissance à deux chiffres. Mais nous-mêmes, on a dit à deux chiffres. D'ailleurs, si on prend le taux de croissance de 2011 qui était négatif, on a dû rattraper une partie avant d'avoir les 8 ou 9%. Donc, c'est un taux de croissance à deux chiffres, là, qu'on a eu. Et je sais qu'avec le FMI, il y a eu pas mal de discussions. Et puis, ils nous ont donné un taux qui est inférieur à un taux à deux chiffres. Mais depuis ce moment-là, jusqu'à maintenant, on a en moyenne 7%. En dehors de 2000, je crois, 2021, là, avec la crise du Covid, on a, je crois, 2%, quelque chose comme ça. Mais quand on dit qu'on a un taux de croissance de 7%, de quoi il s'agit en réalité? C'est 7% du PIB. C'est ce qu'on gagne en réalité. Et le public et le privé. Mais faites les calculs, vous allez voir ce que ça devient, ce que ça donne. Mais les gens ne font pas les calculs. Et puis après, ils disent qu'on s'endette. Mais on ne peut que s'endetter. Et si cet endettement, avec cet endettement, si on a un retour sur investissement. Mais pourquoi voulez-vous qu'on s'y plaigne? D'abord, il y a l'investissement lui-même. Je crois qu'on n'est pas vu. Si vous sortez ici tout à l'heure, vous allez voir les ponts qu'on voit un peu partout, pour ceux qui ne bougent pas. Mais moi, un jour, j'ai été à l'intérieur. J'ai été très surpris de voir de ces routes qui ressemblent pratiquement à des autoroutes, même les routes à deux voies. Et voilà. C'est ce qu'on appelle l'investissement. Le retour sur l'investissement, c'est ce que ça donne. Allez-y vers les commerçants, ceux qui vendent des bœufs, qui vendent tout ce qu'on peut imaginer. Mais ils vous diront qu'aujourd'hui, ça se passe très bien et qu'ils dépensent moins d'argent que par le passé. Voilà un peu. Et donc, la Côte d'Ivoire gagne. Et moi, je pense que... Voilà, les corridors. Et moi, je pense que la politique économique qui a été mise sur pied... À chacun sa politique économique. Si on va un peu en arrière, au moment où le président Oufouette dirigeait la Côte d'Ivoire, il avait sa politique économique à lui. Elle était axée sur le café et le cacao. Voilà. Quand vous prenez une fonction, le professeur va peut-être continuer, une fonction de production, vous avez l'investissement et la consommation, et puis vous avez le sort du commerce extérieur. Mais Oufouette, lui, s'est basé sur le sort du commerce extérieur, sur les exportations. C'est le niveau des exportations qu'il a pris pour développer l'investissement. En même temps, la consommation. Et on a connu, enfin, pas forcément nous, mais la Côte d'Ivoire a connu des années qui étaient très, très belles, 60 jusqu'en 70, où on avait pratiquement toute croissance à deux chiffres. Et Oufouette, c'est comme ça qu'il a développé la Côte d'Ivoire. Mais la période d'Oufouette n'est pas la période du président Ouattara. Lui, il est obligé de mettre l'accent sur l'investissement, surtout privé, parce que public, il n'y en a pas. Vous voyez un peu la différence? L'autre, c'est le solde du commerce extérieur, et l'autre, c'est au niveau des investissements. Mais il a fait un choix. Et je crois que ce choix nous amène à avoir un comportement économique et financier assez exceptionnel. Et donc ça, il faut le lui reconnaître. Donc moi, je pense que on ne pouvait que faire ça. On ne pouvait que passer par là pour développer notre pays. Il faut savoir utiliser ce que vous gagnez. Et puis, dans les lois économiques et financières, quand vous ne pouvez pas rembourser, mais vous faites un rééchelonnement. Mais ça existe. Le rééchelonnement, c'est une recette supplémentaire qui permet de gérer au mieux votre balance de paiement. Et puis, il y a un aspect que les gens ne voient pas quand on fait un endettement. Mais cette dette-là qu'on perçoit, mais c'est en devise. Mais ça a un impact positif sur le solde monétaire de nos balances de paiement. Dans le processus de création monétaire, c'est important. Donc, il y a une importance si vous voulez, à deux tendances. Il y a la tendance même sur tout ce qui est intérieur. Et puis, il y a la tendance sur tout ce qui est extérieur. Donc, ça améliore la balance des paiements, mais ça vous permet en même temps d'avoir une économie solide. Donc, moi, je pense que le fait de s'endetter n'est pas une bonne chose. Quand vous vous endettez et que vous avez les yeux fermés sur l'évolution de ce que vous recherchez, que l'endettement devient un problème pour vous. Ensuite, il a mis aussi l'accent sur le secteur informel. Et je sais que dans le temps, le taux d'endettement avait baissé parce qu'on a repris au niveau du secteur informel beaucoup de parts pour l'intégrer dans le secteur formel. Et ce qui a permis de relever le niveau du taux de croissance macroéconomique. Dans ce côté-là, je pense qu'il faut peut-être même supplier peut-être une commission, pourquoi pas, composée de tout le monde, la société civile, de certains économistes et puis du ministre chargé du secteur informel pour prendre ce secteur à bras le corps parce qu'il est important pour la gestion de nos politiques économiques et financières.
Merci, professeur Prao Séréphin, sur cette question. Faut-il avoir peur de l'endettement extérieur pour financer l'économie et auquel cas, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous?
Bon, dans un premier temps, je pense que, comme il a dit, notre aspect...
Monsieur Onozon,
la dette n'est pas prohibée ni proscrite en économie. C'est un thème qui existe en économie. Lorsque le modèle de Chenery 1962 le dit bien, lorsque la capacité domestique est inférieure aux projections d'investissement, vous êtes obligé de vous endetter. C'est pas là le problème. Après, il y a la gestion de la dette. On va y venir. Mais la question, je pense que M. Ben a posé, c'est comment faire pour réduire l'élan de la dette. Je pense que c'est ça. Je pense que l'ingénieur Kalilou a vraiment planté le décor. La première chose, à mon humble avis, c'est d'augmenter la contribution de la fiscalité. Montesquieu l'a dit, les grands économistes physiocrates l'ont dit depuis des années, il faut que les impôts contribuent fondamentalement. En Côte d'Ivoire, c'est pas moi qui le dis, il est là sous son contrôle. Hein. Le taux de réalisation, n'est-ce pas, est très faible. C'est-à-dire que le potentiel que nous pouvons avoir au niveau de la fiscalité est faible. Preuve en est, après le rebasage du PIB depuis des années, nous sommes aujourd'hui à 14% en 2024 pour une norme communautaire de 20%. Ça veut dire qu'il y a encore une marge. C'est-à-dire quand on voit le potentiel, et un de mes supérieurs, le professeur Yayakeo, a mené une étude qui est désormais séminale pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Il va même plus loin où il trouve un taux de pression fiscale optimale qui se situe entre 21 et 22. C'est-à-dire nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on peut dépasser, eu égard à notre potentiel économique, on peut aller même jusqu'à 21-22. Or, vous voyez, aujourd'hui, 14%, c'est faible. Donc, il va falloir qu'au niveau de l'administration fiscale, un effort soit fait. Après, l'administration fiscale, il faut faire appel aussi à l'épargne domestique. Et là, je reviens toujours là. Moi, j'ai eu le bonheur d'inviter à l'Université populaire de Côte d'Ivoire le directeur général adjoint de la Société Générale. Il a posé ce problème-là. Il dit, Monsieur Prao, vous n'allez jamais avoir l'émergence en Côte d'Ivoire si vous ne faites pas un effort de changement comportemental en termes d'épargne. Il dit, il faut le faire. Les pays asiatiques, ce qu'on appelle NPIA, les nouveaux pays industrialisés d'Asie. Les taux d'épargne caracolent à 40%. 40%. Quand vous prenez le Japon n'est pas endetté vis-à-vis de notre pays. L'État japonais est endetté vis-à-vis des Japonais. On va y venir. Donc là, il faut qu'un effort soit fait. À mon humble avis, c'est un secteur qu'on a oublié. Moi, j'ai fait ma thèse là-dessus. Que la dimension, ma thèse, c'est celle-là. Soutenue en 2009 à Grenoble, j'ai montré qu'en Afrique, on a tout essayé, sauf la convocation. N'est-ce pas, ou la contribution, faire contribuer le secteur monétaire et financier. On a notre bourse qui augmente en termes de capitalisation. Mais on ne fait rien. Quand on partait à la BRVM, l'essentiel des entreprises sont des entreprises ivoiriennes. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, c'est vrai, quelques banquiers nous appellent pour dire, bon, il y a matière à payer quelques titres ici et là, mais il faut que le secteur bancaire aide à la mobilisation de l'épargne. Troisièmement, à mon humble avis, il faut réduire le train de vie de l'État et améliorer la gouvernance. Monsieur Ben, pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire, quand il dit petit pays, je vais parler en termes de richesse vis-à-vis des autres pays dans le Conseil des Nations. Le président Ouattara, que j'aimais beaucoup, je vous dis beaucoup, quand il était Premier ministre, là, devenu président, je ne le reconnais plus. C'est vrai que je n'ai plus le technocrate, c'est l'homme politique maintenant. Donc il y a d'autres dimensions de la personne. Mais je vous dis, quand j'étais étudiant, et ça, mes anciens condisciples peuvent le témoigner. Je suis quelqu'un, en fait, de ma culture, j'aime la tolérance zéro. Et le président Ouattara, à l'époque, lorsque la voiture D roule un samedi, la voiture est immobilisée immédiatement par les policiers qui avaient mandat à l'époque de l'arrêter. Le gaspillage. On a vu le président Ouattara arracher des voitures à Mathieu Ekra à l'époque qui avait 8-9 voitures. C'est ça aussi les dépenses. En économie, c'est quoi? Ça, vous augmentez les entrées ou vous diminuez les dépenses. Et donc les dépenses là, à mon humble avis, le président Ouattara a dit que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, 25 ministres suffisaient. Il a dit 25 ministres suffisaient. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Et la corruption, l'expert est en face de moi, il va renchérir après. Aujourd'hui, le ministre Zorobi Balo, dans son rapport 2019, a dit que nous perdons chaque année, en 2019, 1400 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 4% de notre PIB. C'est énorme. Vous voyez la déperdition financière que nous avons dans notre pays? Ça veut dire, voilà 1400 milliards de francs CFA que nous pourrions ne pas emprunter, que nous pourrions avoir nous-mêmes. Donc, il y a un effort à faire de ce côté-ci. Quatrièmement, à mon humble avis, il y a des secteurs qu'il faut convoquer pour qu'eux aussi contribuent à la marche de notre développement. Il y a le secteur du tourisme. Vraiment, je remercie le grand frère Sindou qui fait quand même du tourisme en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour faire de la politique. Mais il faut, je suis ivoirien, ce qui marche, il faut reconnaître que ce monsieur fait un travail. Sublime Côte d'Ivoire a repositionné la Côte d'Ivoire. Avec la CAN aujourd'hui, hier, je causais avec un Français, il m'a dit, mais vous êtes hospitalier. Et que, moi, je me rappelle, BBC est venu m'interviewer en me disant les retombées économiques de la CAN. Et ils ont reconnu, effectivement, que ça va avoir des retombées. Le tourisme aujourd'hui contribue à 9% de notre PIB. On peut mieux faire et faire contribuer le tourisme. Après encore, il y a ce qu'on appelle l'économie numérique. Aujourd'hui, l'économie numérique contribue à hauteur de 8%. On peut, là encore, il y a une marge. On peut aussi faire vraiment évoluer ces choses-là. Et puis enfin, pour chuter, ce qu'on appelle la contribution de l'extérieur. Regardez, lorsque M. Ben Ali était président en Tunisie, il y a quelque chose qu'il a fait quand même qui me plaisait. C'est faire contribuer la diaspora au processus de développement. Vous qui voyagez beaucoup, vous voyez bien que nos frères qui sont en France, partout ailleurs, ils veulent investir, mais il y a un souci. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au niveau du ministère des Affaires étrangères, on a joint des Ivoiriens de l'étranger, etc., pour qu'ils contribuent. Ce qu'on appelle la diplomatie économique. À mon humble avis, il faut faire comme la Corée du Sud. La Corée du Sud, il y a des ponts qui ont été construits, non pas avec l'argent des Américains ou des IDE, mais avec l'argent, ce qu'on appelle obligation diaspora. C'est-à-dire, il suffit qu'on émette des obligations, mais là, ça ne sera pas acheté par M. Kouan et le grand frère Christophe et vous-même, mais par ceux qui sont à l'échelle de notre pays. C'est une façon de mobiliser les ressources et de financer. Là, on ne s'endette pas vis-à-vis des étrangers, mais des Ivoiriens. Et là, vous voyez que la pression n'est pas la même. Mais là, si on ne peut pas le faire, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Si nous sommes obligés, dans le contexte actuel, de continuer l'endettement, il va falloir que le président Ouattara fasse attention, parce que le problème fondamental, c'est la charge de la dette. La charge de la dette. Or, la charge de la dette dépend du stock de la dette, dépend deuxièmement aussi des conditions d'endettement. Là, monsieur le trésorier le sait, les conditions d'endettement, il le fait bien quand même, le président Ouattara, comme c'est un grand financier. C'est pourquoi d'ailleurs, il fait noter régulièrement la Côte d'Ivoire. En faisant noter régulièrement la Côte d'Ivoire, on réduit le risque premium et donc on arrive à nous endetter à des taux très faibles, autour de 6%. Et comme nous avons un taux de croissance moyen de l'ordre de 8%, 8 moins 6 égale à 2, donc quand c'est supérieur au taux d'endettement, la dette est viable. Et puis là, au niveau de la gestion de la dette également, il faut faire très attention en termes de ventilation. Là, je pense que le président fait un effort de ce côté au niveau du ministère. La part de l'endettement en dollars est très faible. Je veux dire, l'endettement est sérieux, très faible par rapport à l'endettement en monnaie locale. Donc, je pense qu'il faut que les gens du ministère continuent cette bonne gestion macroéconomique de la dette pour ne pas que nous soyons surendettés. Sinon, pour l'heure, l'endettement est modéré.
Amis auditeurs, l'émission qui nous a réunis aujourd'hui était l'économie de la Côte d'Ivoire, tout et défi. Et pour débattre de ce thème, j'étais en compagnie de Monsieur Foster Onozon, économiste, expert en intelligence économique et également expert évaluateur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. J'étais également en compagnie de professeur Séraphin Prao, enseignant-chercheur, professeur d'économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké. J'étais en compagnie de docteur Christophe Kwame, président de l'ONG Civis, de Monsieur Kalilou Koulibaly, spécialiste de la gestion énergétique. À ce micro, Ben Diakité, technique Antoine Kouassi, merci de nous avoir suivis et à très très bientôt.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats. Radio de la paix.